Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
20h, et c'est un plaisir de vous retrouver pour Face à Riofol avec Yvan Riofol, bien sûr. Bonsoir, cher Yvan.
Bonsoir.
On est avec Véronique Jacquier également. Chère Véronique, ravie de vous retrouver.
Bonsoir à tous.
Le point sur l'information, et on commence tout de suite l'émission, juste après, avec Isabelle Piboulot.
À l'issue du match Ajaccio-Marseille, 2 enquêtes ont été ouvertes. Hier, la rencontre a viré au cauchemar pour le petit Kenzo. Vêtu aux couleurs de l'OM, l'enfant de 8 ans, atteint d'un cancer, et sa famille ont été agressés dans une loge du stade par des supporters corses. Un journaliste de France 3 Corse a également été violenté par des supporters marseillais dans une station-service. Un homme a été placé en garde à vue. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi, soit 2 jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à annuler le recul de l'âge de départ à 64 ans. 11 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont 4 000 à Paris. Des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger sont attendus. 17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises. Et puis un point sur les transports à l'approche de la grève, justement. Le trafic national de la SNCF sera très légèrement perturbé mardi, avec 9 trains sur 10 en moyenne et quelques adaptations possibles sur certaines lignes. En Ile-de-France, l'ensemble du réseau de la RATP prévoit une circulation normale. Côté aérien, est annoncé un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly.
À la une de Face à Riofol, Emmanuel Macron reprend sa première ministre au sujet du Rassemblement national. Attaquer le parti sur son histoire, sur des arguments moraux, faire un trait d'union avec le maréchal Pétain est un coup d'épée dans l'eau, juge le chef de l'État. Un recadrage en plein Conseil des ministres, analysé par certains comme une humiliation. Et vous, cher Yvan, qu'en pensez-vous ? On verra ça dans un instant. À la une également, le petit oiseau bleu Twitter pourra-t-il encore voler en Europe ? Le ministre de la Transition numérique menace. Si Elon Musk refuse de respecter les règles européennes contre la désinformation, attention, faut-il entrer en guerre contre Twitter ? C'est une question qu'on va se poser dans cette émission. Enfin, vous recevez ce dimanche, cher Yvan, Pierre-Marie Sève. Il est délégué général de l'Institut pour la justice. Alors que la violence gangrène notre société, que font les juges ? Quelle réponse pénale ? Et que fait l'État ? Voilà le programme pour Face à Riofol. Face à Riofol, c'est parti. Et vous vouliez commencer par Emmanuel Macron, qui aurait reproché en Conseil des ministres à Elisabeth Borne d'avoir dit du RN qu'il était l'héritier de Pétain. Comment avez-vous compris ce recadrage, cette mise au point ?
Écoutez, d'habitude, je suis plutôt avare en compliments vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais là, je dois dire que j'ai applaudi des deux mains, parce qu'enfin, Emmanuel Macron lui-même est sorti de ce confort intellectuel, de cette facilité qu'il y avait à pratiquer ce que Léo Strauss avait appelé la réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire de qualifier votre adversaire de descendant ou d'inspiré par Hitler, c'est-à-dire que ça rompt naturellement toute discussion. Et Macron, c'était beaucoup d'ailleurs, c'était beaucoup inspiré de ceci jusqu'alors, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même une rupture de sa part aussi, c'est-à-dire qu'il reproche à sa première ministre ce qu'il a fait lui-même. Je me vous rappelle par exemple que lors du deuxième tour de son premier mandat, il s'était rendu à Oradour-sur-Glane pour essayer de signifier une sorte de message subliminal, laissant comprendre que son adversaire, Marine Le Pen en l'occurrence, aurait pu susciter une résurgence du nazisme avec les crimes d'Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle également qu'il ne cesse encore aujourd'hui d'appeler le Rassemblement national le Front national et qu'il met en alerte sur ce que serait l'extrême droite à travers Marine Le Pen, sans définir ce qu'est l'extrême droite. Et d'ailleurs, Marine Le Pen aujourd'hui a donné une définition que j'approuve de l'extrême droite, qui est un parti anti-parlementaire et un parti qui use de la violence, c'est-à-dire qui ne correspond pas, en tout cas, à la définition de l'extrême droite telle que Macron l'utilise pour le diaboliser. Mais reconnaissons-lui malgré tout cette bonne nouvelle que de casser tout de même une sorte de facilité intellectuelle. Je vous lis tout de même, pour être plus précis, ce qu'il a déclaré. Donc il répondait en effet à sa première ministre qui avait fait cette déclaration dimanche dernier. Et il dit « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. il faut arrêter avec ces mots des années 90. Bon, moi, je plains naturellement Mme Borne d'avoir été humiliée en public, si je puis dire, devant le Conseil des ministres, parce que ceci a été ébruité, d'autant qu'elle a un passé de fille de déportée qui la rendait sensible, bien entendu, à tous ces aspects-là. Mais il faut convenir, malgré tout, que cette réduction ad iterum ne veut plus rien dire. Et donc, c'est une invitation, j'ai compris ça comme une double invitation. D'abord, une invitation à cesser d'instrumentaliser le passé, en tout cas quand il voulait se réduire au passé de la guerre, avec toutes les accusations portées, partiellement fausses, en plus portées au Front National de l'époque, qui certes a été fondé par d'anciens collabos, mais il y avait également des résistants, et puis surtout, il y avait surtout une palanquée de partisans de l'Algérie française. C'était surtout cela qui importait. Et puis, si on veut vraiment faire l'inventaire de toutes les compromissions qu'il y a eu durant la guerre et dans cette période très trouble, il faut également rappeler que vous avez toute une partie de la gauche antiraciste et progressiste de l'époque, je rappelle Déa, Doriot, Laval, etc., qui, eux, par pacifisme, se sont rangés du côté de Vichy. Ça a été très bien décrit par le formidable livre de Shimon Epstein, Je n'y reviens pas. Et, ce livre ne s'appelle pas Je n'y reviens pas. Le livre s'appelait Un paradoxe français, pardon. Et puis sinon, il faudrait également rappeler, bien sûr, les compromissions de François Mitterrand, socialiste avec le régime de Vichy, puisqu'il a été un résistant de l'intérieur et il a été décoré de la Francisque. Et puis, s'il fallait vraiment creuser encore, il faudrait parler des compromissions, bien sûr, du Parti communiste avec l'Allemagne nazie, en tout cas durant le pacte germano-soviétique qui s'est éteint simplement en 1941. N'oublions pas cela. Donc, il y a eu là aussi, si on doit vraiment fouiller ceci, et c'est un peu vain maintenant, parce que Marine Le Pen est née en 68, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a aujourd'hui 27 ans, donc ils n'ont plus rien à voir avec cette période. Simplement, et la deuxième leçon que j'en tire, qui est plus intéressante peut-être, c'est que Emmanuel Macron prend la mesure aujourd'hui de ce que j'ai appelé ici assez souvent la révolution des œillères ou la révolution du réel, c'est-à-dire qu'il est obligé de voir qu'en effet, ce sont les réalités qui obligent à se débarrasser de tout ce discours facile, de toute cette idéologie, de toutes ces idées prêtes à penser, parce qu'il a dit lui-même qu'il fallait répondre au réel afin de se débarrasser de toutes ces prêtes à penser hors sol. Et donc je pense qu'en effet, c'est là sa phrase la plus importante est sans doute celle-ci d'ailleurs, mais simplement je ne suis pas certain que lui-même arrive à le faire, parce qu'il d'abord il est dans un héritage d'un progressisme, c'est un ancien socialiste, il s'est lui-même réclamé du progressisme contre le populisme. Moi je tiens le populisme comme étant l'expression précisément d'une France du réel, et donc je ne vois pas très bien comment il va pouvoir s'accrocher au réel avec, encore une fois, des sortes d'utopies qui l'animent. On peut très bien, les utopies sont tout à fait charmantes quand elles répondent à des idéaux, mais là, quand elles répondent à des idées fausses, cela devient plus problématique. Et donc, l'autre bonne nouvelle, malgré tout, c'est de faire comprendre, enfin, en tout cas, c'est ce que Macron laisse entendre qu'aujourd'hui, le Rassemblement national doit être combattu. S'il doit être combattu, il doit être combattu sur des faits, sur des propositions. Bref, il faut refaire de la politique et non plus tomber dans ce manichéisme vraiment désolant qui, depuis 40 ans, nous a fait croire que nous étions menacés par le fascisme. Et Lionel Jospin lui-même avait démenti cette petite fable républicaine.
Éric Dupond-Moretti en a remis une couche hier.
Éric Dupond-Moretti en a
72 heures après les propos du président de la République. Et pourtant, une partie de la gauche, Yvan, persiste néanmoins à partager l'alerte d'Elisabeth Borne sur le Rassemblement national qui serait porteur d'une idéologie dangereuse.
Oui, mais ça, cela répond précisément à un vide idéologique. C'est-à-dire que la gauche n'a pas d'autres arguments. C'est bien ce que reproche le président de la République à cette gauche-là, et d'ailleurs à son propre parti, puisque en effet, Dupond-Moretti a repris l'antienne, n'a pas d'autres arguments que de vouloir faire peur à la population qui, maintenant, naturellement, ne tombe plus dans ce piège-là. Et puis, si vraiment Vichy doit être défini correctement, ce serait par sa collaboration avec le nazisme, avec un occupant. Or, qui aujourd'hui collabore avec un occupant? Ce n'est pas, en tout cas, le Front National. S'il y a vraiment ni la droite, ni quoi que ce soit, il faut se poser la question de savoir qui sont les résistants aujourd'hui. Or, les résistants aujourd'hui, ils ont à faire face à au moins deux nouveaux totalitarismes. Il y a le totalitarisme des frères musulmans, du frérisme, tel que Mme Bergeau-Blackler l'a encore très judicieusement défini. Et puis, il y a ce nouveau totalitarisme nord-américain qui est celui du wokisme, c'est-à-dire cette idéologie qui, issue de l'antiracisme d'ailleurs, tente à vouloir déconstruire l'omnipotence occidentale cette fois-ci, et ces deux totalitarismes se rejoignent dans le même but que de faire rendre gorge à l'Occident au nom des minorités oppressées. Or, qui s'oppose à ces deux totalitarismes-là ? Ce n'est en tout cas pas la gauche, ce n'est pas l'extrême-gauche, et ce n'est pas non plus le macronisme. Et en plus, je ne vois pas non plus beaucoup de personnes qui prennent le risque non plus de défendre, de mettre en alerte contre l'État intrusif, de plus en plus intrusif, dans une sorte de contrôle social à la chinoise, qui là aussi n'est pas assimilable à un totalitarisme en soi, mais dont on voit bien que les conséquences pourraient l'être, si l'on voit d'abord la condition de la Chine aujourd'hui, et si l'on voit les répétitions générales qui ont eu lieu dans ce contrôle social à travers la crise sanitaire qui a fiché des Français, qui les a assignés à résidence. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir la même chose avec la crise climatique, demain avec la crise monétaire, avec déjà une interdiction qui se profile d'avoir à monnayer avec de l'argent liquide afin de fluidifier les surveillances monétaires par l'Internet, etc. Bref, il y a tout ceci qui menace. Or, j'assume de dire que les nouveaux collabos, s'il y en a, en effet, ils existent, mais ils sont d'abord à l'extrême-gauche avec tous ceux qui cautionnent précisément cette idéologie islamiste du frérisme au prétexte que le musulman serait le nouveau damné de la Terre. Et donc, il y a cette collaboration-là est une collaboration tout à fait insupportable et elle cautionne ce nouveau totalitarisme. Et puis il y a une autre collaboration qui, elle, prend place au cœur même de la Macronie, c'est cette collaboration avec le wokisme dont je vous ai parlé. Et la figure la plus emblématique de cette collaboration, c'est en effet Pap Ndiaye qui, lui, assume totalement le fait qu'il faut également succomber, si je puis dire, à cette tyrannie des minorités qui voudrait, dans le fond, au nom d'une dialectique post-marxiste, que l'on arrive à une sorte de dictature des minorités les plus militantes, en tout cas. Et puis, d'autre part, je ne vois pas non plus de résistance face à cette perspective d'un changement de peuple et de civilisation qui, pour l'instant, est rendue inabordable au nom du politiquement correct. Et donc, tout ça pour dire que les résistants ne sont pas légion. Alors, certes, on en trouve, bien sûr, dans les reliquats de ce que l'on appelle encore la gauche républicaine, il y a encore de très belles figures, comme Mme Sylviane Agacinski, qui vient d'être élue à l'Académie française et qui mène un combat remarquable contre le wokisme, justement, ou contre tout le néo-féminisme qui s'est associé maintenant à l'islamisme avec des incongruités épouvantables. Madame Banater en est une autre grande figure. On pourrait citer, naturellement, Alain Finkielkraut, Régis Debray aussi, enfin tout ceci, et bien d'autres encore, j'en oublie, Michel Onfray, mais tout ceci, c'est une gauche, c'est-à-dire qui ressemble beaucoup à la droite et qui, par coquetterie, se raccroche encore à son passé de gauche, mais elle n'a plus rien de gauche. Et en fait, les vrais résistants aujourd'hui se trouvent à la fois chez les Républicains, chez le parti d'Éric Zemmour et au cœur du parti de Marine Le Pen. Je suis désolé, mais c'est là que se trouvent les résistances aujourd'hui à ces nouveaux totalitarismes-là. Donc, il faudrait en prendre la mesure. Et d'ailleurs, je trouve que cette résistance face au totalitarisme devrait susciter cette union des droites qui, pour l'instant, à nouveau se tire dans les pattes, alors qu'elles ont un objectif commun qui est, en effet, de défendre la démocratie. Et puis, je rappelle également qu'il faut, malgré tout, toujours avoir à l'esprit que l'esprit de capitulation peut aussi gagner la somnolence générale. Et je pense que Michel Houellebecq en a donné un exemple assez désastreux, dans le fond, dans sa dernière mouture d'un petit roman dans lequel il tente aujourd'hui s'excuser de propos qu'il aurait tenus, des propos naturellement absolument imbéciles qu'il avait tenus contre des musulmans. Mais il a été beaucoup plus loin, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure.
On y reviendra juste après, mais je vais donner la parole à Véronique sur ce recadrage du président de la République à Elisabeth Borne qui faisait un trait d'union. L'héritage du Rassemblement national s'est éteint et le président de la République qui dit stop.
Alors le président de la République a évidemment raison de recadrer Elisabeth Borne pour la simple et bonne raison qu'elle est à côté de la plaque. C'est-à-dire que, alors cela dit, lui ne donne pas les solutions. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on est quand même dans quelque chose de complètement démagogique. Oui, bien entendu, il ne faut plus regarder en arrière. Oui, bien entendu, les combats politiques, Pétain, pas Pétain, gauche, droite, je pense c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut que nous changions de dimension. Et changer d'échelle, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le simple combat politique gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, et il faut en ce sens que la Première ministre change vraiment de logiciel et une partie de la gauche également. Nous sommes vraiment dans un combat civilisationnel. Donc oui, bien entendu, désormais il faut faire de la politique et Yvon a raison de souligner que peut-être le président prend-il conscience, mais ça ne suffit pas. On pouvait sortir les vieilles ficelles usées de le Rassemblement national, généalogie avec Pétain, etc., quand la France allait bien. Mais la France ne va plus bien et la France doit regarder maintenant devant elle, pas derrière elle, pas en arrière. Elle doit regarder les dangers qui sont devant nous et qui sont déjà dans notre quotidien. La disparition de la classe moyenne, la paupérisation qui va de pair, une immigration massive, le lien qu'on commence à faire désormais avec la délinquance. Et quand j'en parle, je cite évidemment le ministre de l'Intérieur qui a fait le lien l'été dernier, souvenez-vous, à la une du Figaro. Il y a bien entendu les attaques du wokisme et il y a les attaques liées à tout ce qui est islamisme radical. On en a vu l'entrisme dans les universités. Ça fait quand même beaucoup de combats à mener, beaucoup de combats civilisationnels. Si on ne prend que le wokisme, aujourd'hui c'est la fête des mères. Eh bien, dans bon nombre d'écoles primaires, vous aviez un petit mot pour dire aujourd'hui on ne fête pas la fête des mères, mais désormais c'est la fête des gens que l'on aime. Parce qu'on ne doit pas brusquer certaines personnes, on ne doit pas blesser certaines personnes qui ont décidé qu'elles étaient mères, mais qui physiologiquement ne sont peut-être pas mères. Enfin bon, c'est vraiment le grand n'importe quoi. C'est ce combat-là qui doit attendre le gouvernement, que ce soit le président de la République ou la Première ministre. Mais pour ça, il faut du courage. Et moi, je pense bien entendu que les résistants se trouvent aussi bien à gauche et à droite quand ils ont une colonne vertébrale. Elle est psychique, elle est surtout éminemment morale, voire spirituelle, mais elle peut venir aussi du peuple. Elle peut venir aussi de la population. Il n'y a qu'à voir, par exemple, ça c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, la répartition des migrants. Vous commencez à avoir quand même une opposition qui se lève. Rien que dans la petite ville de Réalmont, dans le Tarn, 3500 habitants, le préfet voulait imposer à la population et au maire une cinquantaine de migrants dans un centre d'accueil. Et bien finalement, tout le monde s'est mobilisé. Et le préfet a fait marche arrière et a battu en brèche en disant « bon ben d'accord ». Et vous le savez très bien, on est tous en train de se dire que si il y a union des droites, elle viendra sans doute de la base, pas que des partis. Moi je crois que ça va pas venir des partis. Les partis sont encore trop dans la parole. Ils sont pas dans le factuel, ils sont pas dans la révolution du réel telle que la présente Yvon Rioufol.
On rembobine parce que vous avez parlé d'esprit de capitulation qui gagne les esprits les plus indolents comme... Il a gagné Michel Houellebecq. Pourquoi dites-vous que Michel Houellebecq a capitulé ?
Parce qu'il l'écrit, tout simplement. Il a fait un petit livre qui s'appelle « Quelques mois dans ma vie », dans lequel il s'épanche sur la mauvaise réaction qu'a pu avoir la communauté musulmane après des propos qu'il avait tenus dans la rue Front Populaire avec Michel Onfroy, des propos qu'il avait relus malgré tout, et des propos en effet très violents et très imbéciles. Il faut le reconnaître, je vous les donne pour avoir en mémoire quand même le contexte. Il avait dit notamment « Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas tant que les musulmans s'assimilent, mais simplement qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien autre solution, qu'ils repartent ». Donc ces accusations étaient évidemment légitimes, il n'y a aucune discussion là-dessus. Et sa rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris lui avait fait prendre conscience de cette imbécilité qu'il y avait eu, amalgamer tous les musulmans à des dérives de quelques-uns. On est bien d'accord avec ça. Mais simplement, il a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'auteur de Soumission, c'était son grand succès de 2015, s'est révélé être le propre héros du héros de son livre. C'est-à-dire que le héros du livre de Soumission se soumet à l'islam à un moment donné. Pour sa tranquillité, il est professeur d'université, je crois me souvenir, et il se soumet à l'islam parce que le président de la République lui-même est un musulman islamiste. Et donc lui-même, aujourd'hui, fait une conversion ahurissante, alors que l'on a connu ces graves accusations contre l'islam en règle générale. Et lui-même, aujourd'hui, dans ses excuses, va bien au-delà du mea culpa, et il reconnaît, il le dit, alors je vous donne quelques phrases qui me font suggérer qu'il est passé de l'autre côté en cautionnant, dans le fond, cette antienne qui voudrait que l'islam soit une religion de paix et de tolérance. D'abord, il nous dit que l'islam est une religion, ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est naturellement une religion, bien entendu, partiellement, mais c'est d'abord une doctrine, c'est d'abord une jurisprudence, ce sont d'abord des lois, c'est d'abord un code civil, un code pénal, un code de commerce, c'est la charia. Donc c'est bien plus qu'une religion, c'est également une idéologie. Et de mon point de vue, une idéologie totale, totalisante et totalitaire. Et d'autre part, il nous dit que le problème, ce n'est pas l'islam, c'est la délinquance. C'est encore une facilité de langage, parce que bien sûr, il y a je ne dis pas que toute la délinquance est liée à l'islam, mais le salafisme qui induit la société, le séparatisme qui induit le djihad, a provoqué également, à travers une contre-société qui s'écarte des règles communes, a provoqué une sorte de délinquance qui est tolérée, dans le fond, des petits sicaires qui viennent en appui à un nouveau djihad, et que ceci, on peut faire un lien malgré tout. En tout cas, il y a un lien qui s'est créé entre le terrorisme et la délinquance. Il y a eu le gangsterrorisme qui était apparu il y a 20 ans, et que tout ceci ne peut pas être écarté malgré tout d'un séparatisme islamiste. Et donc, il y a une grande déception, dans le fond, à voir que Michel Houellebecq, ou en tout cas une déception, ou en tout cas Michel Houellebecq, qui sent bien la société, lui-même se voit qu'elle peut être le travers d'une société fatiguée, d'une société qui renonce à combattre, qui est une société qui renonce à se défendre, et qui tomberait, elle aussi, dans le grand somnambulisme.
Véronique, vous vouliez réagir?
Peut-être Michel Houellebecq a-t-il peur tout simplement de vivre sous protection policière. Peut-être qu'il lui manque ce courage-là, et on peut le comprendre, c'est un écrivain, c'est pas un homme politique.
Vous n'avez pas peur de généraliser, en tous les cas, quand vous dites, mais attendez, les critiques que vous avez faites contre Michel Houellebecq et ensuite l'explication que vous avez eue, qu'on vous dise, mais attendez, vous faites exactement la même chose dans votre analyse sur l'islam,
Houellebecq,
c'est un code, c'est une...
Michel Houellebecq, oui, je connais, il faut toujours dire qu'on ne généralise pas, on ne veut pas essentialiser, mais simplement je constate ce revirement de Michel Houellebecq, qui peut être un revirement, dans le fond, d'une lassitude de l'opinion qui, elle aussi, a peur, dans le fond, tout simplement.
Twitter. Autre sujet, vaste projet. Lundi, le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a menacé de bannir Twitter de l'Union européenne si Elon Musk, son propriétaire, refusait de respecter les règles européennes contre la désinformation. Est-ce qu'il faut s'attendre à un clash entre Twitter et Bruxelles ?
Le clash a eu lieu parce que Elon Musk a fait un tweet hier. Je vous le cite, « Je préfère la paix, mais s'ils veulent la guerre, ils l'auront. » Et donc... Je pense que l'Union européenne, qui veut imposer ses règles d'une manière un peu aveugle, joue avec le feu en s'affrontant à Elon Musk, qui naturellement doit se plier à un certain nombre de réglementations, la question n'est pas là. Mais on voit tout de même le travers de l'Union européenne, qui pour l'instant ne sait rien inventer, en tout cas de nouvelles technologies, sauf des réglementations qui viseraient à toujours mettre sous contrôle une parole trop libre. Et donc je vois, moi, un grand danger, dans le fond, à ce que l'Union européenne aille trop loin dans l'épreuve de force, parce que d'autant qu'on veut bien comprendre que l'Union européenne veuille sanctionner, veuille lutter contre la désinformation. Mais est-ce que la propagande d'État n'est pas elle-même, dans le fond, une sorte de désinformation ? On a vu tout de même qu'il y a eu des fake news qui ont été proférées par le discours officiel, le discours d'État, lors de, par exemple, sur les vaccins ou sur le confinement, etc. Est-ce que ce n'était pas une désinformation ? Et puis, surtout, l'antienne qui est de dire, également, il faut lutter contre les propos haineux, ce qui est également... le code de conduite que veut appliquer l'Union européenne par la force, on comprend naturellement toutes les vertus morales de lutter contre les propos haineux, mais les propos haineux n'offrent pas de définition juridique. Donc, quiconque s'écarterait de la doxa, s'écarterait du consensus officiel, pourrait être qualifié de haineux. Et d'ailleurs, on en voit les conséquences. Dès que vous critiquez, par exemple, Georges Soros, qui est le partisan de la société ouverte, vous êtes traité d'antisémite. Quand vous critiquez M. Papendiaï, vous êtes traité souvent de raciste. Et puis, quand vous critiquez la répartition autoritaire des migrants sur le territoire sans avoir à consulter non plus les Françaises eux-mêmes, vous êtes naturellement conspué comme étant raciste, xénophobe, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut faire attention à cette dérive-là.
En quoi la France vit-elle une crise de la démocratie, Yvan ?
Elle vit une crise de la démocratie parce que, d'abord, depuis 2005, on a bien vu qu'il y avait une dissonance, si pour le mot est faible, entre ce que veulent les peuples. Le 2005, c'était le référendum sur la Constitution européenne qui avait été rejeté par les Français. Et donc, il y a une dissonance. Mais ceci a déjà été dit, donc j'y passe vite. Mais simplement, on voit qu'à nouveau, aujourd'hui, à travers le retour de la question de la légitimité de la réforme des retraites, on voit que le Parlement européen, le Parlement français est en train également de montrer qu'il fait partie d'un système qui tente à vouloir également interdire aux parlementaires eux-mêmes, aux députés eux-mêmes, de se prononcer par un vote sur cette réforme des retraites. Alors je vais passer vite parce que je vois que le temps file, mais il y aura un rendez-vous jeudi prochain, une proposition de loi déposée par M. de Courson notamment, pour faire en sorte que les députés votent enfin sur ce projet de réforme. Ce serait une réforme qui viendrait à revenir en arrière, dans le fond. Et on voit que toute la mécanique constitutionnelle s'est mise en place afin que les parlementaires la bouclent. Et donc, il y a encore une sorte de violence démocratique qui s'applique. Et moi, je mets en alerte contre ce procédé-là. Il y a une manifestation mardi qui va mobiliser les Français, une partie des Français, précisément contre cette pratique, cette mauvaise pratique de mon point de vue. Et je trouve que là aussi, le gouvernement joue avec le feu.
Une minute, Véronique Jacquier, pardonnez-moi, mais le temps file trop vite parfois.
Oui, on est trop bavard.
Écoutez, non, mais il faut savoir que la lutte contre la désinformation, c'est une obligation légale à partir du 25 août pour l'Union européenne. D'où la prise de parole de Jean-Noël Barrot avec, vous allez voir ce que vous allez voir, par rapport à Elon Musk. Bon, cela dit, moi je trouve que tout ce qui est excessif est insignifiant et que je pense qu'on ne va pas avoir grand-chose. Tout simplement parce qu'encore faudrait-il que le ministre chargé du numérique nous définisse ce qu'est une bonne information. Et là, on risque de tomber effectivement dans un côté totalitaire, c'est-à-dire qu'on va subir ce qu'est une bonne information pour le gouvernement. Et ça, Yvan l'a très bien développé. Deuxième petite chose, ce qui est complotiste ou faux ne va pas disparaître parce qu'on va faire disparaître Twitter. Mmh. Donc voilà, il y a un vrai sujet, évidemment, mais ce n'est pas en montrant les gros bras devant Elon Musk qu'on le règle.
La publicité, on revient dans un instant. Pierre Marissève sera votre invité délégué général de l'Institut pour la justice qui intente une action contre l'État. Alors on connaissait la plainte pour inaction climatique et là c'est inaction sécuritaire.
Absolument.
On va essayer de comprendre ce qui se passe. La pub. 20h30 sur CNews, on poursuit face à Rio Fol. Mais d'abord le point sur l'information avec Isabelle Piboulot bien sûr.
Dans les rues de Paris, les organisations antifascistes ont rendu hommage à Clément Méric dans un contexte de regain des activités des mouvances d'ultra-droite. Un cortège de 5000 personnes selon les organisateurs, près de 2000 d'après la préfecture de police. Le jeune étudiant de Sciences Po et militant antifasciste a été tué il y a 10 ans sous les coups d'un skinhead d'ultra-droite. Au Sénégal, les heures portent à 16 le nombre de morts. Le gouvernement a suspendu Internet sur les téléphones en raison de la diffusion de messages haineux, alors que les réseaux sociaux étaient déjà indisponibles. Les jeunes se révoltent parce qu'ils espèrent un changement politique. Les Sénégalais continuent de redouter une arrestation d'Ousmane Sonko, opposant de Macky Sall et candidat déclaré pour la présidentielle de 2024. Et puis les courses se suivent et se ressemblent en Formule 1. Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Catalogne à Montmelo. Le Néerlandais a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, le double champion du monde en titre, décroche ainsi sa cinquième victoire en 7 courses cette année. La 8e manche du championnat aura lieu dans 2 semaines au Canada et ce sera à suivre sur Canal+.
Voilà pour le point sur l'information. On est toujours évidemment avec Yvan, avec Véronique Jacquier. Il nous a rejoint sur le plateau. Pierre Marissève, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice, association qui a été créée en 2007. Vous revendiquez 190 000 sympathisants. Pourquoi avoir invité Pierre Marissève, Yvan ?
Écoutez, je ne voudrais pas faire injure à l'ensemble des juges, mais on voit bien quand on constate le comportement de la justice qu'il y a un problème de laxisme, tout le moins, et que la justice n'arrive plus à répondre, en tout cas, à la folle envolée de la violence et qu'elle est les bras ballants, d'autant qu'on entend souvent M. Dupond-Moretti fustiger le Rassemblement national, on vient d'en parler tout à l'heure, mais qu'on n'entend pas souvent se préoccuper de savoir comment, effectivement, la justice doit répondre à cette violence qui devient une violence civilisationnelle. Donc il y a un véritable problème. Et donc c'est pour ça que je vous ai invité, monsieur, parce que vous êtes un expert, vous avez un think tank, vous vous occupez de vous intéressez davantage d'ailleurs aux victimes qu'aux coupables, si je puis dire. D'ailleurs, pour ceci, vous êtes plutôt classé à droite. Et vous avez entamé une procédure devant le tribunal administratif pour mettre en cause l'État pour insuffisance sécuritaire, en calquant votre procédure sur la procédure des Verts qui avait fait condamner l'État pour insuffisance climatique.
Inaction, le mot précis.
Inaction, inaction.
C'est le même ordre de...
Voilà. Et donc, d'abord, je voulais savoir si cette procédure a des chances d'aboutir et quels étaient vos griefs.
Alors, déjà, pour faire une toute petite chronologie, on a mis pas mal de temps. Vous savez que le temps judiciaire est toujours très, très long. C'est un peu notre faute aussi, puisqu'on a pris notre temps pour élaborer un groupe de travail, élaborer des bons arguments juridiques en fait et en droit. D'où ce qu'on demande donc cette condamnation de l'État pour inaction sécuritaire. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé le projet. Et là, donc ça fait à peu près 2 mois, donc toute fin mars, début avril, que le tribunal administratif, on a déposé la requête officiellement au tribunal administratif de Paris. Et dans la foulée, une semaine plus tard, le tribunal administratif nous a dit que nos pièces, donc les conclusions de notre avocat, qui est Maxime Thiébaud, vous connaissez, ont été transmises à la partie adverse, c'est-à-dire le gouvernement, Et donc ça, c'est plutôt un premier signe annonciateur que l'action au fond, sur le fond de l'affaire, devrait pouvoir être entendue. Maintenant, on attend la recevabilité. Il y a l'examen de la recevabilité. Ça, c'est une question qui est finalement pratiquement politique. On pourrait nous dire, oui, selon les statuts de votre association, vous n'avez pas le droit d'engager ce type d'action. Bref, on peut trouver des questions un petit peu de forme qui pourraient attaquer, avant même qu'on ne l'examine, notre procédure. Et puis ensuite, on peut espérer que d'ici un an, on ait une première décision du tribunal administratif de Paris. Mais là, je peux vous dire tout de suite, si la décision s'avérait nous être défavorable, nous ferions appel et ensuite nous pourvoirions en cassation jusqu'à ce que toutes les voies d'appel soient terminées. Parce que chaque minute, chaque jour qu'on perd, chaque minute qui passe, ce sont des nouvelles victimes qui sont créées. Et à notre avis, et à l'avis de beaucoup de monde d'ailleurs, par l'inaction et par l'incompétence de l'État français.
Donc vous laissez entendre que l'État, presque volontairement, a baissé les bras face à la violence.
Je ne pourrais pas dire volontairement. Ce que je peux dire, c'est que l'incompétence. Moi, je pense que le maître mot et le mot minimum qu'on pourrait employer, c'est une incompétence, ne serait-ce que sur les places de prison. Alors là, on a depuis le premier quinquennat, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on avait une promesse de 15 000 places. En 5 ans, finalement, on est à 2 000 places construites, c'est-à-dire même pas 2 000 places nettes. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir être très attentif. C'est qu'Emmanuel Macron nous promet 15 000 places construites. Il ne nous promet pas 15 000 places de plus à notre parc carcéral actuel. Donc simplement sur le nombre de places de prison et voir avec quelle lenteur ça s'est mis en place. Je pense que François Hollande avait construit plus de places de prison qu'Emmanuel Macron en un quinquennat. Donc, vu cette lenteur, oui, je pense que c'est au minimum de l'incompétence.
Si vous étiez médecin et si vous étiez au chevet de la justice, qui en aurait bien besoin d'un médecin, quel serait le diagnostic que vous porteriez sur elle ?
C'est intéressant comme question. Je pense qu'elle est... Alors, ce n'est pas un scoop, elle n'est pas en bonne santé. Et peut-être que la maladie que je diagnostiquerais, ce serait la sénilité. Peut-être même une maladie type la schizophrénie ou quelque chose comme ça. Parce que la justice, c'est tirer une balle dans le pied, si vous voulez. Depuis les années 50, en gros, il y a toute une théorie dans le monde de la justice, dans le monde universitaire. Ce sont des grands professeurs en droit, des grands magistrats, des grands théoriciens du droit qui ont mis en place une espèce d'idéologie qui portait le nom à la base dans les années 50 de défense sociale nouvelle. Qui est assez inconnu du grand public, mais qui dans le monde du droit a fait beaucoup d'émules malheureusement, et particulièrement dans le monde de la justice. Le monde du droit, c'est pas uniquement la justice judiciaire, c'est-à-dire les juges, mais c'est aussi les avocats. Enfin bref. Et donc cette théorie-là, qui a eu un énorme essor dans les années 60-70, sur le plan intellectuel, a eu une confirmation politique dans les années 80-90 sous les deux septennats de François Mitterrand. Et ce qui fait que, et cette idéologie-là, là où je parle de schizophrénie, c'est que, si vous voulez, moi, quand j'ai traditionnellement une peine de prison, une peine en justice, elle a plusieurs fonctions. Alors, elle a la fonction de neutralisation, c'est-à-dire que la personne qui est mise en prison ne peut pas commettre d'autres délits puisqu'elle est en prison. Elle a une fonction de dissuasion, pour agir sur les autres potentiels criminels ou délinquants. Elle a une fonction de rétribution, ça c'est très important, c'est la société qui décide de se venger d'un coup de canif dans son pacte social. Elle a ensuite une fonction de réparation et une fonction de réinsertion. Et le problème, c'est que cette défense sociale nouvelle nie les quatre premières fonctions et ne se concentre, elle le dit, c'est dans le livre de Marc Ancel, qui est le pape de la défense sociale nouvelle, elle dit qu'il n'y a qu'un intérêt à la peine, c'est la réinsertion. Et ça, je pense que c'était une rupture dans la pensée judiciaire, dans la pensée du droit pénal et de la justice.
Qui demeure encore aujourd'hui. C'est toujours cette même perspective que vous voyez à l'œuvre.
Alors, c'est difficile de dire, c'est pas tout noir ou blanc. C'est-à-dire, c'est une pensée qui a eu énormément de poids et qui, moi, par exemple, j'ai fait mes études à la Sorbonne dans un master qui forme beaucoup de futurs magistrats. Toutes au féminin, pratiquement. Mes camarades de promotion sont devenus magistrats ensuite, donc j'en connais beaucoup. Et effectivement, moi, dans ce master, j'ai pu constater qu'à l'université, on avait une approche très, très proche, si ce n'est exactement celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire que la réinsertion est la seule chose qui compte.
Et diriez-vous que le syndicat de la magistrature est l'héritier de cette théorie-là ?
Complètement. Alors, le syndicat de la magistrature est l'héritier de deux courants idéologiques. Premièrement, cette théorie-là qui place la réinsertion en priorité avant toute chose et qui nie l'intérêt de la prison. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, le syndicat de la magistrature est fondamentalement, politiquement marxiste. Vous prenez encore le logo aujourd'hui du syndicat de la magistrature, c'est un point rouge levé en l'air. Donc, et ils s'en revendiquaient dès leur premier texte d'être... ils voyaient la justice comme un moyen de faire de la politique, ils le disaient. Et c'était... alors, les mots qu'ils utilisaient, c'était... combattre la bourgeoisie par la justice. Et donc
c'était la harangue d'Oswald Baudot, la femme.
Exactement, ouais. C'est exactement ça. Donc privilégier la femme au mari, privilégier le voleur contre la police, ouais. Privilégier... Enfin, bref.
Donc vous faites le procès, dans le fond, à la justice, à une partie de la justice, à une partie des juges, d'être fortement idéologisés. C'est bien ce que vous nous dites.
Oui, une partie des juges. Alors, aux dernières élections, enfin, les élections professionnelles, en général, ça donne un peu un thermomètre de ce que pèse le syndicat de la magistrature et ses idées. C'est entre 25 et 35% des voix, ce qui est quand même non négligeable. Et donc, non seulement il y a les magistrats, mais il y a aussi les politiques. Les politiques sont loin d'être exempts de tout reproche dans le fonctionnement actuel de la justice. Je vous donne un seul exemple. Ce sont les aménagements de peine ab initio. C'est-à-dire que c'est un mécanisme unique au monde, en tout cas à ma connaissance. Lors d'un procès, en France, jusqu'à 2 ans de prison ferme. Ça a été changé pour 1 an, mais enfin, le principe reste le même. Jusqu'à 1 an de prison ferme, vous êtes condamné à 1 an de prison ferme. Vous n'avez pas le droit, le juge n'a pas le droit de vous envoyer en prison. C'est dans le code, il y est écrit, 1 an de prison ferme. En fait, ça n'est pas de la prison ferme, ça n'est pas de prison du tout, c'est une peine automatiquement.
Oui, on se paye de mots. Véronique Jacquier.
Oui, quelles sont pour vous les réformes les plus urgentes et êtes-vous pour un modèle tel que le proposent les Pays-Bas, c'est-à-dire des peines de prison courtes, voilà, un modèle de prison où on est réellement enfermé, ne serait-ce que pour une durée courte, mais ça a son efficacité.
Oui, alors je pense que le premier chemin de réforme, et je vais rejoindre ce que vous dites, c'est le nombre de places de prison. Voilà, tout le monde le sait, on commence enfin à le dire un petit peu, le nombre de places de prison est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décide normalement, on devrait décider du nombre de places de prison en fonction de la criminalité. Et aujourd'hui, même depuis 30 ou 40 ans, on décide de la criminalité en fonction du nombre de places de prison. Puisqu'on a tous les mois des circulaires du ministre de la Justice qui disent « Attention, messieurs les magistrats, attention, messieurs les procureurs, ne mettez pas trop les gens en prison, puisqu'on n'a plus de place. » Donc c'est le problème principal. Et il nous manquerait, en gros, c'est très difficile de dire combien de places il faudrait. Aujourd'hui, on est à 62 000 places.
Il y en avait eu 12 000 de promises, c'est ça ?
Il y en avait 15 000 de promises, et il y en a eu 2 500 de construites. Mais entre-temps, on en a fermé, donc c'est difficile de dire combien il y en a. Et il en faudrait certainement autour de 100 000,
Et comment jugez-vous l'action du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dont d'ailleurs la première visite, quand il avait été nommé, avait été de visiter un centre
de Fresnes. Absolument, il avait été applaudi par les détenus. Alors, Éric Dupond-Moretti, moi, j'ai coutume de dire que c'est un gant de fer qui contient une main de velours. C'est une main de velours, c'est-à-dire que c'est un gant de fer, il donne l'impression d'être très ferme sur beaucoup d'aspects, enfin, rien que sa personnalité, il a l'impression de penser ce qu'il dit. Quoi. Mais en fait, c'est une main de velours, puisque toutes les réformes qu'il a promises, nous on en avait vu quelques-unes, et l'Institut pour la Justice a publiquement félicité le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, quand il avait annoncé des réformes positives, typiquement la fin du rappel à la loi, typiquement la fin des aménagements de peine automatiques, ce qui fait que tous les ans, tous les prisonniers perdent 3 mois tous les ans, automatiquement, sans qu'ils aient rien à faire, sans même que ce soit observé par un juge. Eh bien, moi, j'ai publiquement félicité le garde des Sceaux, et il s'est avéré qu'ensuite, dans le contenu de la réforme, eh bien, les rappels à la loi sont remplacés par un avertissement pénal probatoire qui est absolument la même chose, qui a juste changé de nom, plus long, plus compliqué à dire, plus difficile à retenir pour le public, donc peut-être que ça atteindra l'objectif du ministre. Et puis, les aménagements de peine automatiques ont bien été supprimés, mais les autres aménagements de peine ont été allongés encore plus. Donc au final, on en arrive...
Et qui, dans la série des gardes des Sceaux de ces 30 dernières années, qui trouve grâce à vos yeux, si je puis dire ?
Eh bien, pas beaucoup, effectivement, mais vous faites bien de poser la question. Il y a un ministre, vraiment un garde des Sceaux, qui a été exemplaire, qui a été vraiment extraordinaire, qui s'appelle Alain Perfit, un académicien qui est aujourd'hui très connu comme le mémoricien de Charles de Gaulle, qui a été un ministre de la Justice. C'est peu connu, mais il a été ministre pendant 4 ans.
Dans les années 80 ?
Oui, fin des années 70, début des années 80, et c'est le plus long ministre, je crois, de toute la
carrière. Et qu'est-ce qu'il avait fait de mieux que les autres, alors ?
Alors déjà, dans sa pensée et son terreau intellectuel, il y a une phrase, moi, que j'avais retenue d'un bouquin qu'il a écrit à la suite de son passage au ministère, qui était « La société a-t-elle le droit de punir ? La pensée dominante, c'est-à-dire la doxa dont je vous ai parlé, la défense sociale nouvelle, l'université, etc., le nie, le peuple l'exige. » Et tout le long de son livre, Alain Perfit se place du côté du peuple. Et il décrit très bien ce fossé entre les demandes des Français. Les Français, ça fait depuis les années 80 qu'ils disent que la justice est trop laxiste. Ça empire chaque année, il y a de plus en plus de Français qui le disent. Mais ça fait depuis les années 80, ça commence vraiment à remonter. Et jamais depuis cette époque-là, la justice n'est allée dans le sens de plus de fermeté. À peu près jamais. Il faudrait qu'on me donne un ou deux exemples.
Quelles seraient les réformes ? Alors, je reviens un petit peu sur cette question-là. Vous avez répondu qu'il faudrait davantage de places de prison, mais j'imagine que ce n'est pas la seule réforme qu'il faudrait. Quelles seraient les autres grandes réformes essentielles qui pourraient faire en sorte que la justice redevienne, cesse avec ce laxisme institutionnel ?
Juste. Ce que vous avez dit, selon vous avez parlé, les Pays-Bas sont un très bon exemple. Les Pays-Bas ont réussi à mettre en place une technique, qui était non plus, comme en France, d'attendre beaucoup de condamnations avant d'envoyer en prison, mais d'envoyer très rapidement en prison, mais pour des courtes périodes. Or, en France, on envoie pour des longues périodes, même si en fait tout est détricoté derrière, mais on envoie à la base, en tout cas pour des condamnations assez lourdes, mais on met beaucoup de temps. On peut être condamné plusieurs dizaines de fois avant de faire un séjour en prison. Ça peut arriver. Les Pays-Bas ont fait l'inverse, et leur population carcérale, qui était plus élevée que celle de la France par habitant, au début des années 2000, sont aujourd'hui à pratiquement deux fois moins que la France, mais avec beaucoup plus d'entrées et beaucoup plus de sorties. Quand on regarde les flux, les flux sont beaucoup, beaucoup plus importants. Maintenant, donc, les places de prison, c'est un peu le goulot d'étranglement de la politique pénale française, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les aménagements de peine tant qu'on n'a pas plus de places de prison, si ce n'est créer de la surpopulation carcérale, ce qui peut se comprendre aussi. Alors là, les détenus devraient plutôt se retourner contre l'État que contre la population. Mais la surpopulation carcérale empêche de faire un certain nombre de réformes, comme la fin des aménagements de peine, les peines planchers, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place, les peines planchers. Et puis, d'un autre côté, il faudrait combattre cette idéologie dont je vous ai parlé. À l'université, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de réformes à faire dans les statuts des magistrats. Aujourd'hui, le syndicat de la magistrature et les autres syndicats ont quand même une place... C'est un peu obscur, hein. Il y a quand même à l'École nationale de la magistrature, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrisme. On sait que pour être maître de conférence, il faut être coopté par les autres. À partir du moment où il y a un certain club de pensée qui arrive à prendre le contrôle de l'École nationale de la magistrature, c'est compliqué de faire entendre d'autres voix. Bon, il est possible que le syndicat de la magistrature, en tout cas qu'une idéologie proche de celle dont je vous ai parlé, ait pris le contrôle de l'École nationale de la magistrature. Mais je pense aussi au CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a pas mal de réformes sur le statut des magistrats qui pourraient être faites pour leur permettre d'être plus impartiaux et plus justes.
Vous décrivez donc une sorte d'abandon qu'on retrouve ailleurs, d'abandon des citoyens face à une institution qui est censée les protéger. Est-ce que vous ne craignez pas, dans le fond, que l'on arrive à des sentiments d'autodéfense? Et est-ce que vous avez réfléchi aux limites de la légitime défense, dans le fond? Parce qu'on pourrait également se poser la question de savoir si le peuple, à un moment donné, n'est pas lui-même en état de légitime défense.
Complètement. Alors, je connais bien le sujet de la légitime défense. C'est un sujet qu'à l'Institut pour la Justice, nous travaillons beaucoup. Nous sommes... la légitime défense, c'est l'autodéfense. Elle est légitime. Il y a légitime défense quand l'autodéfense est légitime, ce qui peut arriver. Par exemple, on est attaqué chez soi de nuit avec quelqu'un qui est armé. Si on lui tire dessus, il y a légitime défense. Mais le phénomène général d'autodéfense, qui va plus loin que cette légitime défense, qui peut être, par exemple, vous vous souvenez peut-être à Roanne l'année dernière, l'été dernier, il y avait un père de famille dont la petite fille avait été attouchée la nuit chez eux. Et le père de famille est allé chercher le criminel, le pédophile. Et il l'a retrouvé. Et ils l'ont, alors je crois qu'il l'a simplement tabassé entre-temps, mais ils l'ont remis à la police. Mais donc ces phénomènes d'autodéfense, c'est certain que quand il n'y a pas de justice, c'est l'extrême auquel on arrive. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour ne pas y arriver parce que ce n'est pas aux citoyens... d'avoir les citoyens doivent être tranquilles dans leur bon droit. Ce n'est pas aux citoyens d'avoir à faire la justice. Ça devrait être à des institutions de le faire. Mais malheureusement, c'est l'extrême qui arrive. Et tant que la justice ne fait pas son travail, il faut tout faire pour que les citoyens puissent au moins ne pas être poursuivis lorsqu'ils sont obligés de se défendre parce que la justice ne fait pas son travail. Et bien souvent, les cas de légitime défense, souvent c'est dans les cas de cambriolage, c'est parce que ces cambrioleurs ont été connus de la justice. Ils sont tous connus de la justice. Ils ont été libérés à un moment donné. Et donc, on est obligé, les citoyens sont obligés de parer à la justice. Et donc, la moindre des choses, c'est quand ils sont obligés de parer à la justice, aux défaillances de la justice, c'est de ne pas les poursuivre derrière. Ça me semble.
Véronique Jacquier, il vous reste à peine 2 minutes.
Oui, le pouvoir des juges, selon vous, est-il une réalité? On parle toujours du pouvoir des juges.
Oui, alors il y a le pouvoir en matière de justice pénale dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Maintenant, il est certain qu'il y a un autre problème qui aussi j'ai l'impression d'entendre de plus en plus parler. Et heureusement, là j'ai encore vu que Emmanuel Macron avait un petit différend avec le Conseil constitutionnel. Ça, moi, c'est quelque chose que la plupart des observateurs politiques observent. C'est que nous avons en France plusieurs cours suprêmes, c'est-à-dire que normalement, dans un ordre judiciaire, on a un tribunal, une cour d'appel et un tribunal suprême par-dessus. Eh bien, en France, il y a plusieurs ordres judiciaires et il y a plusieurs tribunaux suprêmes. C'est-à-dire que pour un même cas, vous pouvez aller voir la Cour de cassation, puis ensuite la Cour européenne des droits de l'homme, puis ensuite la Cour de justice de l'Union européenne. Bref, on s'y perd. Il y a aussi le Conseil constitutionnel, qu'il faut bien nommer. Et tous ces tribunaux suprêmes qui sont censés vraiment s'assurer que la loi a été bien décidée par l'Assemblée, par le peuple, par le Parlement, ont décidé, depuis les années 70, hein, pour le Conseil constitutionnel, de prendre des libertés et de décider. Et aujourd'hui, on peut le dire clairement, la politique d'immigration en France, elle est décidée, elle a été décidée, elle n'est plus décidée par plus personne maintenant, mais elle a été décidée dans les années 70 par la décision Gisti du Conseil d'État. Ouais. Et depuis cette décision Gisti, qui a été confirmée, donc c'était Conseil d'État confirmé par toutes les autres cours, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne.
Sur le regroupement familial, hein.
Exactement.
C'est allusion à ça.
Voilà, c'est ça. Qui n'est peut-être plus aujourd'hui, mais qui a été le principal vecteur d'immigration depuis 40 ans.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pierre Maraïssef. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Merci, cher Yvan. C'était très agréable cette émission avec vous également, Véronique merci. Jacquier. Dans un instant, c'est Enquête d'esprit. Avec qui ? Michel Onfray.
Voilà, Michel Onfray qui va nous parler de l'âme. De sa conception de l'âme, et donc de l'immortalité.
Eh bien, restez bien concentrés, c'est dans un instant sur CNews. Merci à toutes les équipes techniques.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.